On va ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Jean et nous allons continuer dans le chapitre 16. L'évangile de Jean, chapitre 16, nous sommes bien sûr dans cette série d'études « Que votre cœur ne se trouble point ». Jésus est en train de parler à ses disciples dans la chambre haute et il veut les rassurer parce qu'il va arriver pas mal de choses, d'événements qui vont les surprendre. Ça n'ira pas tout à fait dans la direction qu'ils avaient pensé. Et il ne veut pas qu'eux soient complètement déboussolés. Alors, il les prépare. Jésus sait que les disciples ne vont pas tout comprendre, tout ce qu'il leur dit, ne vont pas tout saisir, parce que ils pensent autrement, leur vision globale du monde et du plan de Dieu surtout, et autre que celui de ce que pense Jésus-Christ. Et donc Jésus va leur parler. Et ça me fait penser à l'époque où nos enfants étaient de tout petits. Et alors peut-être que papa et maman allaient s'absenter et que quelqu'un viendrait rester avec eux. Alors on prend l'enfant, hein, il a 2 ans, 3 ans, on prend l'enfant et on lui explique. On dit papa et maman vont partir et puis on sera absent pendant jusqu'à demain ou après-demain, on sera absent. Il y a une dame qui va venir, qui va rester avec vous, elle préparera vos repas, elle s'occupera de vous et tout ça. Et ensuite, on reviendra et le soir, cette dame elle va vous coucher et puis vous allez dormir. Et puis quand on reviendra, ce sera un matin, vous vous réveillerez et on sera là. Pour un enfant de 2 ans, 3 ans, vous lui expliquez tout ça, il ne saisit pas. Il n'arrive pas à comprendre. Mais, vous savez, après qu'on lui a expliqué tout ça, si jusque-là, on l'a toujours, chaque fois qu'on lui a dit quelque chose, ça s'est passé comme on a dit, eh ben, il écoute, il dit d'accord. Et puis il s'en va, il va jouer, plus de problème. Mais est-ce qu'il a saisi ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a compris combien d'heures ça représente? Est-ce qu'il sait? Pas du tout. Mais, il y a quelque part, la manière dont ça a été dit par... Et puis, il y avait surtout la fin, c'est que maman et papa vont revenir. Eh bien, ça lui suffit. Il sait que tout... Il ne comprend pas exactement, mais bon, tout ça, c'est enregistré. Et puis, il va voir, et puis après, il verra une dame venir. Après, bon, il saura, ah oui, ils ont dit qu'il y avait une dame qui allait venir. Puis après, ils vont dire, oui, mais elle va me coucher, elle va me faire ceci, cela... Et au fur et à mesure, il est rassuré. Est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il sait compter les jours? Est-ce que... Non. Mais au fur et à mesure que les choses s'écoulent, eh bien, il est rassuré. Et pour lui, tout est bon. Eh bien, c'est un peu la situation qui se passe ici dans la chambre haute. Jésus est en train de parler aux disciples. Eux, ils sont tellement simples dans leur connaissance. Et les choses qu'ils croient connaître, ce n'est pas tout à fait juste. Mais... Jésus leur parle, il les prépare. Il leur dit d'abord, mais je vais m'absenter. Il parle du long terme, je vais m'absenter. Il ne dit pas pendant combien de temps, mais il dit, je reviendrai. Et je vous enverrai quelqu'un qui sera avec vous. Jusqu'à ce que je revienne vous chercher. Ce sera le consolateur, il sera un consolateur comme moi. Et puis, après il a dit, et puis dimanche dernier, on a vu, dans le début du chapitre 16, il les préparait pour la croix et la crucifixion. Il dit, il va y avoir un moment où vous serez dans la tristesse parce que vous ne me verrez pas. Puis ensuite, vous me reverrez et vous aurez une grande joie, une joie comme vous ne l'aviez pas avant. Parce qu'il parle du moment où vous me verrez ressuscité. Et Jésus parle et dit, et puis après tout cela, eh bien, vous comprendrez quand ça se passera. Maintenant, bon, juste retenez ce que je vous dis et vous comprendrez quand ça se passera. Et c'est exactement, finalement, notre attitude aussi par rapport à Dieu maintenant. Il y a beaucoup de choses que la Bible nous promet, dont elle nous parle. On ne comprend pas et on discute longtemps. On a nos débats, on a nos théologiens, on a ceci, cela, on se dispute. Non, c'est comme ça. Non, moi, je crois que c'est comme ça. Puis on discute. Mais bon, ça se passera comme il a prévu. Et quand Jésus apparaîtra, eh bien, on sera tous prêts. Même si ce n'est pas exactement comme on l'a prévu. Hein, mais ce sera comme il a prévu. Et c'est ce que l'on voit ici dans cette chambre haute. Alors, Jésus, c'était un peu, vous savez, dans Jean chapitre 2, après, les disciples ont fait remarquer à Jésus, mais on dit, mais tu as vu ces pierres-là, ce temple, il est beau, hein, ce temple d'Hérode-là. Et Jésus dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Puis les disciples disent, quoi, ça a pris 40 ans pour Hérode de construire, puis toi tu vas faire ça en 3 jours, mais de quoi tu parles? Mais une fois que Jésus était ressuscité, il nous dit dans Jean chapitre 2, hein, les versets, ben regardez, puisque vous êtes dans Jean là, regardez Jean chapitre 2. Et verset 18, Jean 2, verset 18 à 22. Dit, donc voilà, verset 18, les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. C'est sûr que quand il l'a dit, on ne comprend rien, on ne sait pas de quoi il parle. Comment? Ce n'est pas possible. Mais une fois que c'était arrivé, mais c'est comme ça qu'il l'avait dit. Et nous, pour ce qui est de la mort et de la résurrection de Christ, c'est du passé pour nous. Donc tout ça, nous pouvons le regarder et puis on voit que ça s'est passé comme il l'a dit. Pour ce qui est du départ long terme, quand il a dit « je m'en vais vous préparer une place », eh bien, finalement, nous pouvons dire ben, « comme la première partie s'est bien réalisée, la deuxième partie se réalisera bien et le Seigneur reviendra ». Donc, continuons notre lecture dans Jean chapitre 16, hein, et au verset 25. Donc, on continue dans ce contexte. Jean chapitre 16, et au verset 25. C'est Jésus qui parle. Il dit, « Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous m'avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde, et maintenant je quitte le monde et je vais au Père. » Je m'arrête là, parce qu'il y a plusieurs suites de pensées là. Alors Jésus, comme nous l'avons dit, hein, il veut rassurer ses disciples pour ce qui est du long terme, et il va leur préparer une place. Il parle du court terme, c'est ce que nous avons vu dans les versets 22-23. Hein, il a dit, vous êtes maintenant triste, mais vous me reverrez, et votre cœur se réjouira, et nul ne ravira votre joie. Il est en train de leur dire, mais une fois que, c'est-à-dire, je vais m'absenter là tout de suite, après vous me reverrez, et vous aurez une joie que personne ne vous ravira. Mais là, il est en train de dire encore une deuxième pensée. Il a dit, lorsque ce sera arrivé, c'est-à-dire donc après la résurrection, il dit, vous n'aurez pas besoin que je prie pour vous. Mais vous pourrez vous adresser directement au Père. Il dit, actuellement, tout ce que vous obtenez, c'est moi qui le demande pour vous. Ça, c'était le régime des disciples pendant le ministère terrestre de Jésus. C'était... Tout ce qu'ils avaient, c'était Jésus qui le demandait pour eux. Mais là, il dit, après la résurrection, vous pourrez vous adresser. Vous n'aurez pas besoin de moi pour demander pour vous. Vous pourrez demander directement. Parce que c'est la chose extraordinaire, c'est que Jésus-Christ, en mourant sur la croix, en passant par la tombe, en ressuscitant, tout d'un coup, l'obstacle est écarté. Le péché n'est plus là. Il n'y a rien qui nous empêche de venir directement à Dieu. Et Jésus dit, vous demanderez en mon nom, bien sûr, mais vous aurez accès directement, vous pourrez parler directement au Père. Il dit ça, c'est quelque chose de nouveau après la croix. Dans l'Ancien Testament, bien sûr, les gens, ils avaient besoin de passer par le prophète, ils avaient besoin de passer par le prêtre, ils avaient besoin de passer par quelqu'un qui demandait à Dieu pour eux. Ils ne pouvaient pas demander directement. Et même les disciples, et si vous vous disiez, ah, ce serait bien si on pouvait être à l'époque des disciples avec Jésus. Non, non, c'est moins bien. C'est meilleur maintenant, parce que maintenant, on peut s'adresser directement à Dieu. Alors, c'est triste qu'il y ait des gens à qui on enseigne le besoin de passer par un saint quelqu'un, et saint celui-là, et puis demande à celui-là, et demande à Jésus pour qu'il demande à sa mère, pour qu'il demande à... Mais non, 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 c'est compliqué, il dit, après la résurrection, vous pourrez parler directement, vous n'aurez même pas besoin de moi, seulement demandez à mon nom. Il dit pourquoi ? Parce qu'il vous aime. Parce qu'il vous aime. Quand on se sait aimer de quelqu'un, il n'y a rien qui nous empêche de nous approcher de la personne. C'est lorsqu'il y a... On est ennemi de quelqu'un, là, on n'ose pas s'approcher. Ou quand on sait qu'il y a une chose qui n'est pas réglée, on n'ose pas s'approcher. Parce qu'il vaut mieux régler la chose d'abord, et puis ensuite on a accès. Mais quand tout est réglé, quand le péché est effacé, les péchés sont pardonnés, eh bien, je peux venir directement à Dieu. Si j'ai été désobéissant, alors là, je demande à ce que mon péché soit purifié par le sang de Christ, et parce que nous sommes dans le monde et nous péchons encore, hein, donc on a besoin, le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché, et ensuite nous pouvons nous adresser directement au Père. Il dit, il vous aime, il vous aime. Et combien est-ce qu'il nous aime ? Eh bien, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Voilà combien il vous aime. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, combien plus maintenant que nous sommes ses enfants ? Nous pouvons venir à lui, directement à lui, au nom de Jésus-Christ. Et il nous dit qu'il nous recevra. Et toutes ces choses, ben les disciples entendent, ils ont dit, parce qu'eux, ils ont été élevés dans un système où on passe par le prêtre, on va au temple, si on veut faire quelque chose pour Dieu, on va au temple, et on offre un sacrifice. C'est-à-dire, ils ont été formatés comme ça depuis des générations. Alors tout ça, c'est très nouveau pour eux. Ce que Jésus est en train de dire, nous, on le saisit un petit peu, mais pour eux, c'était complètement autre chose. Mais Jésus en parle pour qu'une fois qu'ils sont, Jésus sera ressuscité, eh bien vous allez dans les Actes des Apôtres et vous lisez leurs prières, ben, ils s'adressent directement à Dieu. Il n'y a pas de prière dans le Nouveau Testament, après les Actes des Apôtres, après Pentecôte, vous n'avez pas de prière où on s'adresse à Jésus. Tu pourrais demander à Dieu s'il veut bien être gentil avec nous aujourd'hui, nous pour voir quelque chose. Il n'y en a pas comme ça. On s'adresse, il nous dit, vous avez l'Esprit en vous qui nous permet de crier Abba, Père. Donc, ça, c'est une chose, bon, pour les disciples, je ne comprends pas, mais nous l'entendons, mais est-ce que nous le pratiquons ? Nous pouvons venir à tout moment. Vous connaissez peut-être l'histoire d'Esther dans l'Ancien Testament, et elle voulait demander quelque chose du roi, et normalement, il fallait être convoqué par le roi pour être reçu. Mais elle était sous pression, il y avait un grand besoin, son peuple était menacé. Alors elle se présente, elle prend le risque que le roi ne veuille pas la voir. Et si jamais on se trompait, on se présentait devant le roi et il n'avait pas envie de nous voir, ben c'était la mort. Mais si en nous voyant, eh bien, il était bien disposé, eh ben, il tendait le sceptre. Et alors, on pouvait s'approcher, toucher le sceptre, et puis après, on pouvait parler. Et Esther a pris le risque. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça lorsqu'on se présente à Dieu. On ne prend pas de risque. Il dit même, regardez dans Hébreux chapitre 4. C'est pour nous rassurer. Et Hébreux chapitre 4 et verset 14, il dit ainsi, « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Si je suis déjà venu à la croix et j'ai demandé à Dieu de pardonner mes péchés par le sang de Jésus-Christ, Christ qui est mort pour moi, qui a pris ma place, je comprends cela. Et je reçois la vie nouvelle. Après cela, je n'ai plus besoin de venir à Dieu tremblant. En fait, je lui fais plaisir et je me fais plaisir de venir dans sa présence. Et peut-être que quelqu'un sur terre, si on se présente trop souvent, ça peut les fatiguer, mais Dieu, ça ne lui fatigue pas. Il ne fatigue pas. Il ne se lasse pas de nous entendre. Il nous dit même dans l'Ancien Testament, il ne se lasse pas de pardonner. Alors combien plus de répondre à nos besoins. Alors voilà, il nous dit que moi je m'en vais. Mais vous pourrez, une fois que je serai parti, vous pourrez parler directement au Père et lui demander. Donc c'est déjà une bonne chose, ça rassure énormément lorsque les disciples seront dans la situation et comprendront. Alors, là, on arrive au verset 29, et les disciples disent, « Voici, maintenant, tu parles ouvertement. Tu n'emploies plus aucune parabole. » Il dit, « Jusque-là, on ne comprenait pas. Tu nous parles des choses, on ne comprend pas. Tiens, on a l'impression que tu parles en parabole, en énigme. Jusque-là, on n'a pas saisi. Mais là, tout d'un coup, on comprend. » Bon, la réalité, c'est qu'ils ne comprenaient pas, ils croyaient comprendre. Hein, c'est un peu comme, tout à l'heure, je parlais de l'enfant, le père a tout compris, dit, t'as compris ? Oui, il n'y a pas de problème, ça y est, c'est bon. Et il s'en va. Mais est-ce qu'il a compris ? Est-ce qu'il sait ce que ça veut dire ? Non. Mais il est rassuré. Et les disciples, un peu, c'est dans ce sens-là, ils disent, ça y est, ah, maintenant, c'est clair. Ça ne va pas être clair parce qu'on le saura. Hein, pendant la crucifixion, ils vont être perdus, ils vont être ceci, cela, ils vont être déçus. On voit qu'ils n'ont pas compris. Mais, une fois que ça sera passé, ils disent, ah, mais c'est ça qu'il nous a dit tout le long. Et c'est un peu ça que nous vivons, même dans notre vie de tous les jours. Lorsque je vois les choses que se faire dans notre vie, et comment, il dit, mais le Seigneur avait prévu ça, c'était comme ça, oui, c'est comme ça qu'il l'a dit. Et on continue. Jésus, bien sûr, vous avez vu à la fin du verset 28, il dit « Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde et maintenant je quitte le monde et je vais au Père. » Comme si c'était tout naturel, je suis venu, j'ai quitté le ciel, je suis venu, j'avais un travail à faire et maintenant je retourne. Hein, et les disciples ont dit « Bah oui, maintenant, comprends de quoi tu parles. » D'accord. Mais ils sont rassurés surtout. Hein. Et c'est pour ça que Jésus avait commencé le chapitre 14, verset 1, il a dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu. » Et si je continue là, verset 30, donc il nous dit « Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Et Jésus leur répondit « Vous croyez ?» maintenant, vous croyez maintenant. C'est pas que vous comprenez maintenant, vous croyez maintenant. Jean chapitre 14, verset 1, il avait dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Maintenant, au bout de trois chapitres, eh bien, on arrive, il dit, vous croyez maintenant. Maintenant, vous me faites confiance. Maintenant, vous recevez ce que je vous dis. Vous n'êtes pas en train de remettre en question. Est-ce que vous avez compris ? Non. Mais est-ce que vous acceptez la chose ? Oui. Et c'est un peu notre, pour ce qui est des choses à venir et ce qui doit se passer à l'avenir, ben c'est un peu comme ça notre attitude devant Dieu. C'est que on comprend ce qui a été dit, nous croyons que ce qui a été dit est vrai. Est-ce que nous comprenons comment ça va se passer? Non. Mais nous savons que ça va se passer. Hein? Et c'est l'assurance que nous avons. Et c'est pour ça que les gens nous regardent et parfois, ils disent, mais comment tu parles, tu dis que tu vas être sauvé, tu dis que tu vas, que tu parles avec Dieu, tu dis que Dieu t'entend, tu dis, tout ça, c'est... Ils ne comprennent pas, ils ne saisissent pas de quoi on parle. Ils disent, mais c'est vraiment, tu es vraiment mystique, toi. Hein? Et non, mais c'est de la réalité, mais pour lui, ça l'échappe complètement. Mais c'est ce que... vous savez, si vous voulez être borné dans la vie, soyez restreint par l'intelligence, surtout par la vôtre ou la mienne. Mais si vous voulez un monde grand et vaste, alors la foi vous donne accès. Pas la naïveté. C'est deux choses différentes. Hein. Être naïf, c'est une chose. Et croire en une parole de quelqu'un qui est digne de confiance, c'est autre chose. Naïf, c'est on sait même pas, on connaît même pas la source de la chose, on ne sait pas si on peut faire confiance et puis on le croit. Ça, c'est naïf. Mais lorsque je crois en la parole de Dieu et ce qu'il a dit, c'est une personne digne de confiance. Là, c'est de la foi et là, c'est quelque chose de sûr et ça me permet d'accéder et d'entrevoir des choses bien plus grandes et qui échappent à mon intelligence, qui vont bien plus loin. Hein? S'il faut tout réduire à mon intelligence, on ne ferait pas grand-chose dans la vie. Hein. Je ne pourrais pas utiliser mon ordinateur. Parce que je ne le comprends pas. Je ne comprends pas comment, avec des 0 et des 1, on arrive à faire tant de choses. Mais ça marche. Et combien sont les choses qu'on ne comprend pas hein, dans la vie? Mais on les accepte. Mais quand Dieu dit quelque chose... Alors non. Mais si on dit que les scientifiques disent, même si on ne connaît pas leur nom, même si on ne sait pas qui ils sont, il suffit de dire que les savants disent, eh bien c'est bon. Mais eux, ils changent d'avis. Hein? Et ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Et ensuite, ils ont dit, vous croyez maintenant. Et alors, je continue au verset 31, Jésus leur répondit, vous croyez maintenant, voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais moi, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Alors là, il tout juste, il arrive au point, ah, vous croyez. Ah, enfin, ça va. Il dit, oui, mais vous savez, et c'est, ça va arriver là, vous allez tous m'abandonner. Oh, vous savez, chaque fois que... Pierre a eu l'occasion, hein, vous connaissez Pierre, il dit, même si les autres t'abandonnent, moi jamais. Hein, et c'est ça qu'il avait dit plus tôt. Il dit, moi jamais, même si les autres, moi, tu comptes sur moi, tu peux t'appuyer sur moi, je suis sûr. C'est le premier qui renie. Jésus dit, l'heure est déjà venue et vous m'abandonnerez. Comment, Seigneur, nous t'abandonner? Jamais, on est avec toi, on croit en toi, tout ça. Et bon, ça va. Et vous savez que, après la chambre haute, donc au chapitre 17, il y a la prière du Seigneur, et juste après la prière, ils vont sortir dans le jardin de Gethsémané, le jardin des Oliviers, juste l'autre côté d'un petit ruisseau, le Cédron, face à Jérusalem. Et ils seront là pendant la nuit. Et dans Matthieu chapitre 26, il nous dit que Jésus, il prend les trois disciples, Pierre, Jean et Jacques, et il les emmène avec lui, et puis il dit, écoutez, je suis dans une grande angoisse, une grande tristesse, je sens la pression venir, prie avec moi. Et puis Jésus va un peu plus loin, et puis pendant une heure, il prie. Il revient, qu'est-ce qu'il trouve? Les disciples endormis. Par leur sommeil, ils l'ont abandonné. Hein, ils l'ont lâché. Ils ne prient plus. Non, et puis, eux, ils sont assoupis par le sommeil. Pourquoi? Parce qu'ils avaient entendu ce qu'ils avaient dit, mais ils n'avaient pas compris le danger. Et eux, ils dorment. Et Et Jésus les réveille, il dit, vous n'avez pas pu dormir avec moi, juste une heure, prier avec moi pendant une heure. Et puis il s'en va encore une heure, il revient, et puis il les trouve encore endormis. Et ça, trois fois, finalement, il a dit, écoutez, dormez maintenant, c'est pas la peine, c'est trop tard. Et juste à ce moment-là, arrive Judas, l'un des disciples, qui a déjà trahi le Seigneur, il vient, et il lui fait ce baiser comme si... Il venait de l'engrenage, alors que quelques heures avant, il était avec lui dans la chambre haute. Il se présente comme ça, et il se croit malin par son baiser, parce que c'était le signe par lequel, pour dire aux autres qui était Jésus, ben, il connaissait Jésus, il l'avait vu depuis longtemps. Hein. Mais il le trahit par un baiser. Et puis après, bon, il y a Pierre, quand même, hein, il fait un peu de zèle, là, il sort son épée, et... On ne peut pas compter sur lui pour défendre parce qu'il attaque le gars, il ne lui coupe que l'oreille. Ça rassure, ça. Bon, heureusement pour l'autre. Mais Jésus était là. Et Jésus a guéri l'oreille, il a réparé l'oreille, il a dit, non, écoute, Pierre, si j'avais besoin d'être aidé, ce n'est pas toi qui vas me défendre. Moi, je peux faire appel à 12 légions d'anges pour me défendre. Et un seul suffirait. Et puis, il nous dit, à ce moment-là, Matthieu 26, il dit, tous l'abandonnèrent. Tout d'un coup, les disciples, il y en a un qui part, et les autres, ils voient l'autre partir, et puis tous disparaissent. Et, bon, c'est vrai qu'après, Pierre et Jean, ils ont un peu suivi dans l'ombre derrière. Et puis, Jean a fait rentrer Pierre dans la cour de chez Caïphe, là où Jésus était. Et là, il nous dit, dans Jean chapitre 19, il nous parle de cette servante qui dit, mais toi, je t'ai pas vu avec Jésus.
Moi,
je connais pas, jamais. Il dit, pourtant, hein, tu as le même accent, hein, on dirait que tu viens du même pays. Hein. Tu devrais le connaître. Ah non, je connais pas. Et trois fois, il va renier le Seigneur avant le lever du soleil, avant le chant du coq, il va le renier. Jésus va même le regarder. Hein. C'est un regard. Il va le regarder. Je ne sais pas si vous avez jamais arrêté pour essayer d'imaginer quel genre de regard Jésus a donné. Si c'était vous qui donniez un regard à quelqu'un qui vous trahit, vous le regarderez comment? Moi, je pense que le regard de Jésus, ce n'est pas un... C'est un traître. Non, moi je pense que c'était un regard doux. Il dit, dans un sens, je connais ta faiblesse. Et écoute, je t'aime toujours. Et c'est ça qui a pénétré le cœur. Encore s'il avait regardé dur, Pierre aurait pu dire, je peux encaisser. Mais ce regard tout doux, plein d'amour, de compassion, qui veut l'encourager dans sa faiblesse, alors que Jésus était dans une situation bien pire que lui. Pierre, il le regarde, et Pierre, il s'en va, et ce regard a pénétré jusque dans sa conscience, et il a pleuré amèrement. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Et le Seigneur m'aime toujours. Ben oui, mais vous savez, nous pouvons chacun revenir à Jésus, même si nous l'avons trahi, peut-être pas de la manière dont Pierre l'a trahi, mais nous avons trahi le Seigneur autrement. Eh bien, sachez que s'il nous fallait croiser le regard de Jésus, eh bien, ce serait un regard qui encourage, qui attire, qui dit, écoute, confesse, je te pardonne. Confesse, je te reprends. Moi, je t'aime toujours. Et même, puisque je suis sur la personne de Pierre, après sa résurrection, Jésus fera une apparition personnelle à Pierre. Et même, il dira aux femmes, il dit, allez, dites aux disciples et à Pierre, au cas où il se sent plus inclus parce qu'il a renié. Dites aux disciples et à Pierre que je vous verrai. Je veux le revoir. Et plus tard, dans Jean chapitre 21, Jésus parle à Pierre et dit, Pierre, je te confie mes brebis, paie mes brebis, paie mes agneaux même, les plus faibles, prends soin d'eux. Vous savez, heureusement pour nous que Jésus n'est pas un homme comme les hommes, mais un homme plein de compassion, plein d'amour. Il est prêt à nous recevoir, il nous tend la main, même la main percée que nous avons percée, eh bien il l'attend pour nous récupérer. Jésus a dit, oui, vous allez tous m'abandonner, mais bon, c'est pas grave, parce que le Père est avec moi, je ne suis pas seul. Il dit, au verset 32, il dit, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Il y avait quand même un moment où Jésus a dit, pourquoi m'as-tu abandonné au Père? Et c'était un moment où, le seul moment, c'était quand Jésus était sur la croix et au moment où tout le péché du monde est placé sur lui. Alors là, le Père s'est détourné. Et Jésus a cité le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ça n'a pas duré longtemps parce que même avant que Jésus meure, il dit, mon Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Le contact avait repris avant que Jésus meure. La seule chose qui pourrait faire détourner le regard de Dieu, c'est le péché. Mais nous ne risquons rien, nous, parce que si nous sommes enfants de Dieu, le péché est réglé. Le péché a déjà été porté. Il n'y a pas de péché en moi qui puisse obliger Dieu de détourner le regard. Parce que ça a été déjà fait sur la croix. Donc nous pouvons être rassurés. Comme Jésus a dit, moi, même si tous m'abandonnent, c'est pas grave, le Seigneur est avec moi. Eh bien nous maintenant, en Jésus-Christ, nous pouvons dire, même si je me retrouve seul dans ce monde, mais Dieu est avec moi. Et Jésus, pendant quelques instants, il y a eu une rupture, mais pour nous, parce que c'est déjà fait, il n'y a pas rupture. Même si je pense qu'il n'est pas avec moi, il est avec moi. Même si je doute, il est avec moi. Il est près de moi. Il est toujours là. On peut lire ce passage dans Hébreux chapitre 13, verset 5. C'est une citation de l'Ancien Testament. C'est ce que Dieu avait dit à Josué, qui est repris dans l'Épître aux Hébreux. Et donc une parole qui est valable pas seulement pour Josué, mais aussi pour nous. Hébreux chapitre 13, verset 5. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Il dit, n'essayez pas de trouver des moyens autres, ni l'argent, ni les connaissances, ni les tuyaux ou autre chose. Il dit, moi, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Vous savez, le Père, il a payé trop cher pour laisser tomber. Parfois, il y a des petites choses comme ça dans notre vie. On dit, ah non, ça jamais, je lâche pas. Ça m'a coûté trop cher. Eh oui, mais même ces choses pour lesquelles on a payé cher, on n'a pas payé autant que Dieu a payé pour nous avoir. Ça a coûté la vie de son cher fils. Alors, il dit, je ne suis pas prêt. Alors, ne craignez pas que le diable puisse vous prendre. Ne craignez pas que des démons puissent vous enlever votre appartenance à Dieu. Ne croyez pas que même vous pouvez le faire. Parce que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Il dit, personne ne vous ravira de ma main. Nous sommes, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi maintenant, mais ça veut dire que nous appartenons à lui. Alors, il dit oui, l'heure vient, elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Il dit, verset 33, donc Jean 16, 33, il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Il dit, écoutez, je sais que vous ne pouvez pas comprendre tout cela, mais c'est juste pour que vous les entendiez, vous entendiez comment je vous le dis, la voix avec laquelle je le dis, et ça doit vous rassurer. Hein, comme les parents qui parlent à ce petit enfant, c'est des concepts qu'il ne saisit pas, mais lui, il détermine en fonction de la voix des parents, et il sent que tout est bon, tout est mis en place, tout ira bien, les parents sont confiants, donc je suis confiant, puis il s'en va, il va jouer. Eh bien, c'est un peu ça aussi. C'est Dieu qui l'a dit, la manière dont il l'a dit, il semble que tout est sous son contrôle, donc il n'y a pas de problème. Et donc, on peut vivre en paix. La paix, ce n'est pas le fait que tout va bien. La paix, c'est le fait que nous savons que tout est sous le contrôle de Dieu. C'est ça, la paix. Vous êtes dans une tempête dans le bateau, ben vous gardez l'œil sur le capitaine. Et si lui il reste calme, vous dites bon, ça doit être bon. Vous savez pas, hein, là, le bateau est. Mais le capitaine il a l'air calme. Vous dites bon, ça doit être bon. Lui il sait. Tant que lui reste calme, je reste calme. Et c'est un peu, c'est ça qui nous donne la paix. On regarde au Seigneur, ben lui, il n'est pas paniqué. Donc, pourquoi paniquer, même si moi, j'ai l'impression de voir les choses. Et dans notre monde, il y a de quoi nous paniquer. Hein. C'est la tempête autour de nous tout le temps. Hein. Il suffit d'allumer la radio pendant une heure ou deux, et puis il y a de quoi vous faire peur. Mais, il dit, je vous donne ma paix. C'est-à-dire, vous pouvez me faire confiance. Je suis en mesure de prendre soin de vous. Et il ajoute en plus au verset 33, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Il ne dit pas, je vaincrai le monde. Il dit, j'ai vaincu le monde. Il dit, ça bouge, tout ça, mais tout est réglé, tout est en place. La partie la plus critique, c'était quand Jésus était sur la croix. Et c'est passé. Maintenant, il n'y a plus rien de critique. Tout est réglé. Il n'y a pas de moment critique dans le plan de Dieu. Le moment le plus critique du plan de Dieu, c'était Jésus sur la croix. Mais c'est passé. Il est passé par la tombe, il est ressuscité. Alors maintenant, tout est réglé. J'ai vaincu le monde. Il dit, vous aurez des tribulations, vous aurez ceci, cela, mais j'ai vaincu le monde. Et le Seigneur nous rassure. Et il a dit, que votre cœur ne se trouble point. Tout se passera comme j'ai prévu. Alors, comme des enfants qui font confiance à des parents qui leur disent toujours la vérité, eh bien, nous aussi, nous devons faire confiance à notre Seigneur. Sinon, je vous encourage... Pour dimanche prochain, lisez le Jean chapitre 17, la prière du Seigneur, et qu'on va parler. Et puis voyez un peu comment le Jésus prie, hein, la manière dont il prie. Et vous noterez peut-être que Jésus n'y a pas beaucoup de répétitions. Il n'y a pas de mots supplémentaires pour remplir les phrases. Et il n'est pas en train de... Non, il présente les choses directement à Dieu, sans compliquer la vie, sans rien ajouter, et il intercède pour ses disciples. Il demande ce qu'il a dit. Et c'est ainsi que nous devons prier. C'est ça, un modèle, hein, de prière. Donc, méditez un peu sur comment Jésus a prié, comment il a dit les choses. Et c'est comme ça que nous devons prier. Parce que de nos jours, vous entendez des gens qui prient dans toutes sortes de manières. Et qui se répètent, et qui crient, et qui ceci et cela, et puis... Et comme si c'était en criant, ils ajoutaient de la puissance à la prière, alors que c'est pas la puissance, c'est dans l'esprit, pas dans la voix. Et c'est pas dans la répétition. Et Jésus dit, ne répétez pas, vous n'avez pas un Dieu sourd, on n'a pas besoin de répéter. Donc soyons soyons méditer là-dessus. Mais pour l'instant, eh bien, Jésus dit, soyez dans la paix. Croyez en moi. Et soyez dans la paix. Tout se passera comme je vous ai dit. Ne vous en faites pas. Et c'est ça qui nous rassure. Bien sûr, la question, c'est toujours la question, c'est pour nous, c'est la question de péché. Et de ne pas vivre dans le péché, de ne pas continuer dans le péché, pour qu'il n'y ait pas d'obstacle dans la relation. Hein, c'est une fois que nous sommes en Jésus-Christ, c'est une question de relation. Et dans les relations, eh bien, il faut que tout soit réglé, pardonné, confessé, et nous voulons pratiquer cela. Alors prions et que le Seigneur nous aide cette semaine. Père Céleste, encore une fois, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ta parole, pour ce que tu nous as enseigné, et que tu as pris la peine d'expliquer à tes disciples, même si tu savais qu'ils ne comprendraient pas. Mais une fois que tu étais ressuscité, que le Saint-Esprit t'est descendu sur eux, après Pentecôte, toutes tes paroles sont revenues et ils ont su que tu étais un Seigneur digne de confiance. Et nous voulons avoir aussi cette attitude devant toi, d'être des disciples qui ont pleine confiance et que tu puisses dire de nous, vous croyez maintenant et vous avez la paix, vous vivez dans la paix. Père, que ce soit vrai de nous et que tout soit en règle avec toi et que nous puissions bénéficier de ce fait de pouvoir t'adresser la parole directement au nom de Jésus-Christ. Et c'est en ce nom-là que nous prions maintenant. Amen.